Tribune PSG sur France Bleu. Bruno Salomon.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tribune PSG. Au sommaire ce soir de cette tribune, l'épaule de Mbappé, les adducteurs de Neymar, la victoire bien moche face à Toulouse et surtout les Reds et encore les Reds. C'est mercredi et on a hâte d'y être, on va décrypter cette partie et se poser la question de voir si les Parisiens jouent leur saison finalement sur une rencontre. Bien sûr, il ne sera pas question dans cette émission des 42 points en championnat, du maintien assuré et du titre de champion d'automne que le PSG a bientôt validé. Invité ce soir de notre émission, il va s'installer dans ce studio dans quelques minutes. C'est l'auteur de Paris dans les veines, Damien Dol-Chabourine. Il sera avec nous. On va parler bien sûr de sa passion du Paris Saint-Germain et de son livre que l'on va décrypter ensemble. Mais avant de le recevoir, Damien, eh bien on va recevoir déjà toute la team de Tribune PSG. Émilie Ross, la meuf de foot, digital manager, qui samedi va s'est regarder le match avec Paoletta, rien que ça. Stéphane Bitton, tonton Steph, la mémoire vivante du PSG, rédacteur en chef de foot123.fr, Joss, le youtubeur rap et foot, et enfin il y aura aussi bien sûr Rico, Rabé, Sandra Tana et notre partenaire le Parisien, et aujourd'hui chef. Oui, Laurent Perrin est avec nous. Voilà, ça rigole pas, c'est comme ça. On a le chef, on a l'ancien capitaine du PSG. Il se passe plein de choses dans cette émission. Allez, pendant que tout ce petit monde s'installe, juste le temps de vous dire bienvenue à ceux ou celles qui sont en direct avec nous en vidéo, mais aussi à ceux et celles qui nous écoutent en podcast, en replay et qui nous placent en tête des produits sport France Bleu en téléchargement. Merci à vous, bienvenue dans Tribune PSG, c'est parti. Salut la team.
Hello. Hello.
Salut, tu es beau.
Ah merci.
Tu es beau, tu es beau et tu as chaud.
Merci. Tu transpires.
Grave. Moi j'ai comme ça
de
l'eau.
Moche de Noël.
Voilà. Bah, moi je suis pas moche.
Non, il est pas moche.
Il est pas moche.
Non, il est pas moche.
Il est beau, il est stylé.
Ouais.
C'est vrai. Excusez-moi, c'est pas que j'ai pas confiance, mais je vais me retourner vers quelqu'un qui a du goût, du style. Je me retourne vers Joss.
Non, franchement, j'aime beaucoup l'outfit. On appelle ça un outfit.
Un outfit.
En plus avec la petite chemise qui dépasse, voilà.
Très bien.
Ça fait très moderne, très jeune. J'adore.
Ok, merci. Maintenant sérieux. Alors maintenant, j'en ai un pour toi, bien sûr, Joss. Bon, c'est voilà, gentil. C'était pour mettre un petit peu l'ambiance. Ouais. Je fais un gros bisou à Tiffany qui m'a envoyé ce pull de Noël. Vous en aurez un à gagner pour les fêtes, bien sûr. C'est Noël, c'est encore le Papa Noël, c'est dans un petit mois, hein, on est d'accord.
On est 26, voilà, le 26. Voilà, on sera en lendemain de Noël.
Donc,
dans un mois, pile.
On va attendre un petit peu. Il fait super chaud, je vous le dis.
C'est
un
coup,
j'ai super chaud. Ouais, non, mais c'est voilà. Et il faut vous le dire, c'est Émilie m'a dit, je t'avertis, tu mets le pull. L'année dernière, c'est moi qui l'ai porté. Donc là, cette fois-ci, c'est toi qui vas te le porter.
Exactement.
Voilà, donc je le porte. Voilà, je le porte.
Les gens m'avaient abordé dans la rue en me disant, est-ce que vous connaissez celle qui portait le pull?
Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça.
La fille moche.
Dites
enfin,
donc.
Pull moche.
Non, la jolie fille dans le pull moche.
Sur les réseaux sociaux, justement, Émilie a déjà des messages pour se dire bonjour.
Exactement. On a Mike qui nous dit bonjour les Choupo-Gang. J'aime beaucoup cette expression.
C'est ça, le Choupo-Gang.
Merci, Mike.
Effectivement.
Laurent nous dit hello, magnifique pull Bruno. Et Olive
merci.
Nous dit bonjour de Germany. Il nous suit d'Allemagne.
Ah, très bien.
Et
Faut
oh, le beau pull, j'en veux un aussi.
Ouais, alors pour l'instant, on n'aura pas le pull, hein, je vous le dis tout de suite. Mais voilà. Mais il sera gagné le 17 décembre, je vous le promets, dans Tribune PSG. Les amis, on est à 50h50 du coup d'envoi. Des Reds, bien sûr. On va en parler dans cette émission. Mais d'abord, on va accueillir notre invité. Ça vient de sonner à la porte et on va accueillir quand même notre invité qui vient et qui est Damien Dol-Chabourine, l'auteur de Paris dans les veines aux éditions Marabout. Damien.
Bonjour Damien.
Bonjour Damien.
Bienvenue.
Bonjour.
Là, il y a du monde hein, aujourd'hui pour t'accueillir. Là, ça ne rigole pas. Damien, juste pour présenter aussi ton livre, journaliste à Libération, mais avant toute chose, parisien, Titi de Paname. Et quand on est Titi de Paname, c'est ce que tu expliques dans ton livre. Bah, il y a un club, c'est le Paris Saint-Germain. Ancien Authentix, voilà, hein, ancien ultra du Paris Saint-Germain. Et Damien, tu as écrit ce livre, Paris dans les veines, 365 jours dans la vie d'un supporter du PSG. Alors, c'est très simple, mais l'idée est basique au départ, comme le chante Aurel San. T'as vu, hop,
petit voilà,
5 décembre à l'Accor Hôtel Arena, enfin, je fais ça comme ça, vachement bien.
5 et 6.
Ah très bien. Pardon, excuse-moi.
Tout aussi ému aussi.
Voilà. En tout cas, pour expliquer le livre, c'est un voilà, tous les jours, tu expliques ta vie de supporter pendant 365 jours, du 1er juillet 2017 au 31 mai 2018. Et là, de se dire, Neymar va arriver, sentir la pression. Ce qu'on a vécu finalement, se dire, je vais sur les réseaux sociaux, est-ce que ça va arriver, Mbappé, mais est-ce que c'est vraiment possible? Tu racontes comment tu vis la vie du supporter, et c'est ça la base du livre. Mais tu le faisais déjà un peu finalement en chronique. Dans l'IB.
Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était pour le transfert de Neymar. En fait, on se posait tous la question un petit peu en France de comment traiter ce sujet-là, notamment quand on n'a pas d'infos, parce que nous, à l'IB, on n'est pas forcément ceux qui, un des médias qui a des infos transfert, on va dire. Et donc, du coup, en racontant un petit peu ce quotidien-là, on m'a demandé de l'écrire, plutôt, enfin, raconter ce que je vivais. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de supporters en fait qui se retrouvaient là-dedans. Et du coup, on a poussé sur mon éditeur, m'a demandé de faire la même chose sur l'année entière.
Et c'est plutôt rigolo de finalement, on est dans la peau du, on y est. Parce qu'on se rappelle. Moi, quand tu parles de Neymar, par exemple, dans ton bouquin, je suis en train de me rappeler. En fait, tu te dis ah ouais. Et donc là, moi, j'étais en vacances. J'étais pareil, j'étais en train de me dire non mais c'est pas possible, tu vas sur les forums, tu vas savoir un petit peu ce qui se dit, est-ce que ça va tomber, tu vas sur le Parisien, tu vas sur d'autres sources et tu te dis bon, et tu suis comme ça. Oui Rico.
Ouais mais c'est surtout qu'on avait déjà eu ça pour d'autres joueurs avant et on se dit
ah mais là
c'est est-ce que tu vas l'avoir, non c'est juste des, voilà il veut revendiquer pour...
Ah mais il le dit Damien sur la période Mercato, il dit j'ai pas envie de me faire avoir comme ouais. Chaque année, j'ai
c'est
pas
ça,
envie d'y
Ronaldo,
croire,
machin,
et bim
d'annoncer.
Tu tombes dedans. Et oui. Voilà. Eh oui, c'est ça.
Sauf que là, c'était vrai.
On va en reparler de ton,
deux fois en plus.
De ton livre. C'est ça. Oui, en plus, double coup. Tu te fais et Neymar et Mbappé, ce qui est plutôt pas mal.
Et là, tu te dis, on gagne la Ligue des Champions l'année qui vient.
Et voilà. Merci d'avoir
aujourd'hui.
Et t'as parlé de Berchiche ou pas? Non.
Oui,
Et tu dis même, au pire, on la gagne dans les deux ans.
Voilà.
Et il y a Liverpool en attendant qui arrive mercredi.
J'aime quand Tonton nous ramène à la raison et à la réalité, bien sûr. Juste, puisque Damien n'est pas venu les mains vide, à gagner si vous partagez cette émission, Paris dans les veines, on vous enverra ça, on fera le tirage au sort bien sûr en fin de semaine pour annoncer les gagnants et on vous fera gagner ce livre. Franchement c'est passionnant parce que on peut tous se mettre en situation date par date, jour par jour, le tirage au sort qu'on attend fébrilement de la Ligue des Champions, etc. etc. Voilà, Damien bienvenue, tu vas commenter avec nous l'actualité, on est parti et en plus les amis, il regarde Tribune PSG.
En plus,
on est encore heureux. Voilà.
C'est un bon point.
Voilà, c'est un bon point. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, c'est parti. Justement, on est à exactement, je vous l'ai dit, 50h30 presque de ce match. Et on va commencer par Mbappé et Neymar. Qui aime les matchs amicaux autour de cette table depuis mardi soir?
Personne, je pense.
Hein, tu t'as pesté. Hein.
Surtout que c'était pas des super matchs en plus pour les deux joueurs qui ont été blessés. Donc, ouais, c'est vrai que c'est.
Quand on a vu, parce que l'un est arrivé avant l'autre, il y a le timing. A été, j'allais dire, parfait. Il n'a pas été parfait du tout, mais on a tout de suite su que Neymar était sorti. Et d'un coup, on est devant la télé
Mbappé
au stade
suit,
et on voit Mbappé. On se dit, c'est pas possible.
C'est énorme. Ouais,
sur 30 minutes, on en perd deux d'un coup, là.
Est-ce qu'autour de cette table, il y a quelqu'un ou deux personnes ou trois personnes qui peut me donner des nouvelles? Est-ce qu'on ouais, sait
si
parce
tu,
que
si depuis tu les
mardi,
désignes déjà.
Depuis mardi, on est comme ça.
Mais j'ai pas changé, moi.
Toi, t'as pas changé.
T'as dit,
jeudi.
J'ai pris tout le monde à contre-pied
voilà.
Et j'assume jusqu'au bout ce que j'ai dit.
Donc, on répète, pour ceux qui n'ont pas écouté.
Si j'ai bien suivi, parce que je suis attentivement.
Tout le monde s'écoute, c'est magnifique.
Alors, écoute.
Donc, t'étais plus inquiet pour Mbappé que pour Neymar.
Alors, selon mes sources, puisque j'avais des sources.
On rappelle quand même, parce que tonton Steph, voilà, c'est la mémoire vivante, mais ancien journaliste. À l'équipe.
Il y a 15 ans.
T'as encore quelques. Voilà, c'est
quelques
comme le vélo,
contacts.
Ça se perd pas.
Exactement.
Hein, il y a quelques contacts.
Ça, exactement. Et dès le soir, le lendemain, moi, on m'a dit pour Neymar, il n'y aura aucun problème. Pour Mbappé, peut-être un peu plus, parce que son épaule est touchée et que dans ses courses, dans ses mouvements, il a besoin des mouvements d'épaule et que s'il y a un des deux qui doit rester sur le carreau, ce qui n'était pas sûr, mais Neymar, c'était sûr qu'il jouerait. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit dès le lendemain. En revanche, pour Mbappé, un peu plus compliqué, pas impossible, mais un peu plus compliqué.
Rico, ça tu voulais réagir.
Ça veut dire que pour Neymar, il a dû sentir quelque chose, mais
il s'est arrêté
il à temps. Voilà,
oui. En tant que joueur intelligent, il s'est dit, je vais pas prendre de risque, je vais m'arrêter. Donc il s'est arrêté au bon moment.
Exactement.
Pour Mbappé, c'est plus compliqué parce que là, c'est une mauvaise chute.
Quand on voit les images,
il tombe vraiment mal. Ouais, franchement, je sais pas comment il fait pour tomber comme ça parce que même en voulant, il doit mettre son bras autrement.
Il doit tomber de ce côté. Il doit rouler comme un judoka.
Pour finir avec ce qu'a dit Tonton, c'est vrai que c'est pour l'utilisation. Et lui, particulièrement pour les sprints, il a besoin de ses bras et donc son épaule, ça va le gêner quand même pas mal.
Et puis, connaissant certains joueurs de Liverpool, tu fais la target. Tu te dis, on appuie sur l'épaule droite. Quoi.
Ouais, cas, à chaque fois qu'on arrive dans les grandes échéances, on a toujours des joueurs qui soit diminués, c'est soit blessés. Et là, on ne les aura pas à 100%. Donc, c'est sûr, comme tu dis, que Van Dijk va bien appuyer sur l'épaule d'Mbappé lorsqu'il y aura des duels.
Oui.
Donc Laurent. Des nouvelles ?
Oui, parce que là, on a eu Tonton qui nous a donné, moi j'en veux aussi, Laurent.
Donc,
Neymar et Mbappé se sont entraînés cet après-midi, ils étaient sur le terrain.
Laurent,
l'histoire ne dit pas encore s'ils se sont
entraînés. S'ils étaient en chaussures ou en claquettes ?
Non, ils sont entraînés. Ils étaient sur le terrain, voilà, on ne sait pas encore si ils ont fait toute la séance, s'ils ont fait les oppositions et tout, mais en tout cas, bon premier indice, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ah ouais.
Ils étaient là, voilà, avec le crampon et tout.
Toi, ça te fait peur, toi ?
Bah, ça me fait peur parce que la blessure qu'il a, Mbappé, elle peut être très problématique dans son jeu, surtout que voilà, c'est son jeu de prendre de la profondeur, la vitesse et le moindre coup d'épaule lui sera fatal.
C'est ça. 17h45 dans Tribune PSG. Je vous rappelle cette information importante. Alors jeudi dernier, Tonton Steph avait dit pour Neymar c'est bon et pour Mbappé. Et là, l'information de Laurent Perrin du Parisien, ils se sont entraînés. Normalement.
Après, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est que, vous savez, les joueurs, on peut leur faire des piqûres antidouleurs, on peut trouver... Mais on prend un risque. Or là, c'est le match où il faut prendre un risque. Parce que derrière, qu'est-ce qu'on a ? C'est vraiment ce match qu'il faut gagner.
L'Europa League.
Et s'ils se pètent pendant un mois, et ben, limite, tant pis. Quoi. Ouais. Tant pis. Mais là, ce match-là, ils doivent être là, même s'ils sont à 80%. Parce que ces joueurs-là, à 80%, ils restent meilleurs que tous les autres.
On va venir te voir, Damien, dans quelques instants, mais ça réagit très fortement
ça
sur
grêle.
Les... Ouais, c'est bon.
Ça grêle, et vous allez voir, on s'y retrouve un peu tous, en tout cas, moi je me retrouve dans sa réflexion. Il y a Jonathan qui nous dit, ils vont jouer, j'en suis sûr, surtout Mbappé. Globule nous dit, avec Ney et Mbappé, mais pitié, Sandy Maria et Ni Bernat, par pitié.
C'est un autre débat.
Chef nous dit, les deux seront sur le terrain, les gars, ne vous inquiétez pas, Alves a vendu la mèche sur les réseaux.
C'est vrai.
Ami nous dit, les deux, Neymar, c'est une fausse blessure, il voulait pas se blesser pour l'hiver. Liverpool, du coup, il a feinté une blessure.
Non.
Et Laurent nous dit quelque chose de très juste. C'est horrible de se dire que c'est le match le plus important de la saison. Nous sommes en novembre. Le match le plus important doit, pour Paris, normalement se dérouler en avril-mai.
Eh oui, mais pour l'instant, on n'a jamais eu cette chance-là pour l'instant. Damien, le journaliste, mais aussi le supporter, on rappelle, Damien Dole-Chabourine, qui est notre invité, auteur de Paris dans les veines. Mbappé, Neymar. Sans eux ou avec eux ? Et est-ce que ça va pas être la catastrophe s'ils ne sont pas avec nous ?
Bah non, mais à partir du moment où ils peuvent marcher, courir, jouer, même à 80%, même à 90%, on ne peut pas se passer de ni Neymar ni Mbappé. Et de toute façon, oui, les histoires de est-ce que ça va aggraver la blessure, de toute façon, on s'en fiche. Parce qu'en fait, si le match est perdu, la blessure, elle peut être celle de Neymar, elle peut être transformée en blessure de 3 mois. On n'aura pas besoin de Neymar pour les échéances qui se dérouleront dans les 3 mois qui suivent.
Ah, il y a un déplacement à Bordeaux, il faut faire gaffe.
Attention au match à Orléans, en Coupe de la Ligue.
De toute façon, je ne vois pas comment les. Sauf si. À partir du moment où ils ont même fait une partie de l'entraînement. Sauf s'il y a des informations qui viennent comme quoi, en fait, il y en a un qui a dû achever son entraînement parce qu'il n'en pouvait plus. Je vois pas comment les deux ne pourraient pas être titulaires demain.
Bon, là, information, là, sur les entraînements comme aujourd'hui, ils sont pas à fond. Hein, okay, ils vont gérer.
Comment ça se passe, là, quand il y a des matchs comme ça à échéance?
Là, tu participes au jeu, tu fais le plus simple et le plus en sécurité. C'est-à-dire que tu feras aucun duel, il n'y a personne qui va les titiller, ouais. Et tu vas juste toucher le ballon pour dire, tu reprends la compétition, l'entraînement et le rythme pour se préparer. Mais voilà, on va te préserver jusqu'à mardi. Donc, le vrai test, c'est le premier coup d'épaule sur Mbappé, parce que le premier coup d'épaule sur Mbappé, il va falloir qu'il soit ou protégé ou assez malin pour sortir au dernier moment pour pas prendre de c'est ça le truc.
Est-ce que c'est une catastrophe si l'un des deux n'est pas là, ou est-ce qu'on peut s'en sortir? Je me retourne vers Laurent Perrin et après je viens voir Tonton.
Bah déjà, avec les deux, on est sûr de rien. C'est quand même un match.
C'est terrible ce que tu dis, mais c'est vrai.
Mais c'est vrai.
Donc, vaut mieux qu'il soit là, oui.
Tonton.
Évidemment, évidemment, quand on a ces deux joueurs-là, quand on se rappelle aussi la somme qui a été mise, parce qu'on est d'accord, hein, 400 millions, c'est pas pour gagner à Dijon ou pour battre Bordeaux, c'est surtout pour bien briller en Ligue des Champions. Donc évidemment, là, il y a un match important, il est en Ligue des Champions, Paris joue sa saison. En cas de défaite, ce sera la cata. Parce que vous parlez de Ligue Europa, ça peut être rien du tout aussi. Je vous rappelle que dans ce groupe-là, les quatre équipes sont dans le coup. C'est ce qui est nouveau par rapport à la dernière fois. Ah ben oui, il peut encore se passer plein de choses. Est-ce que Naples battra l'étoile rouge ? On peut le penser, mais c'est pas fait. Bref, évidemment, c'est mieux d'aborder ce genre de match avec des joueurs capables d'être décisifs, capables de faire la différence eux-mêmes à tout moment. C'est à ça c'est pour ça qu'on les fait venir, pour faire la différence dans ces matchs-là.
Sur les réseaux sociaux.
Ouais, c'est ce que Sergio nous dit. Il faut enlever le son, hein, monsieur.
Ouais, c'est ça. Tu m'excuses. Tu sais quoi ? C'est quoi ? Je vais juste faire un gros bisou à mon fils qui était juste allé faire un tour à l'hôpital pour lui enlever ma
trousse.
C'est moche d'utiliser son fils.
C'est gentil. Mais juste me dire que tout allait bien.
Martin, je t'embrasse.
Jouer mercredi.
C'est ça. Il pourra jouer mercredi, mais sur la glace.
Pour rebondir sur ce que disait Tonton, il y a Sergio qui nous dit Neymar, Cavani, Mbappé, ça fait 2 joueurs sur 3, pas au top. Contre Liverpool, c'est vraiment light.
C'était pour tous les deux, Joss et Damien, mais je te sens dubitatif.
Non, mais oui,
ça n'a pas l'air d'aller.
Non, mais faut dire la vérité, on est sous pression, on l'était déjà, même s'ils étaient à 100%. Là, ils seront sur le terrain, c'est sûr. Au vu de l'investissement qui a été fait, ce serait un fiasco de ne pas les voir débuter, mais ils seront dans quel état de forme, surtout.
Je suis pas si sûr que ça pour Mbappé.
Logiquement, qu'on voit
logiquement,
le choc qu'il a eu,
tout laisse penser que, certes, c'est un match extrêmement important, mais il peut très bien y avoir aussi un scénario où tu le fais rentrer à une demi-heure de la fin.
Oui, aussi.
Choses tournent pas bien, et tu prends quand même pas tous les risques. Parce que pour l'instant, c'est un peu à ça que je m'accroche.
Damien, dans le livre que tu as écrit, Paris dans les veines, tu poses la question de. Pour l'instant, on n'a pas encore vu le Neymar que l'on attend, c'est-à-dire décisif sur The Match, et le Mbappé non plus. C'est maintenant.
Le problème de Paris, en fait, c'est qu'il y a finalement assez peu de matchs décisifs dans une saison, puisque très souvent on les perd. Donc du coup, c'est vrai que sur la double confrontation du Real, il y en a un qui le fait, mais du coup qu'il loupe en partie, même si finalement c'est pas un des plus mauvais sur le terrain. Et puis après, le deuxième, il y a la blessure contre Marseille. Et donc du coup, on ne l'a pas. Après, Neymar ou pas, je pense que face à ce Real l'an dernier, de toute façon...
Ça n'aurait rien changé, je pense.
Après, c'est sûr que là, s'il y avait... un des deux qui, même ne serait-ce qu'un des deux qui manquait à l'appel, tu te dis... t'as vécu tout ce mercato-là l'an dernier, t'as la fierté d'avoir 2 des 4 ou 5 meilleurs attaquants du monde... Et tu peux jamais avoir les deux dans les matchs couperets, quoi.
Parce qu'on est maudit, c'est ce que t'as dit Joss tout à l'heure.
On est maudit, c'est pas possible.
C'est
vrai que
depuis
le PSG,
les Qataris sont arrivés,
il y a toujours quelqu'un. Il a manqué Thiago Silva, il a manqué Verratti, il a manqué Thiago Motta.
Il y a surtout eu des
tirages pas faciles, quoi.
Ouais, ça fait partie de la chance aussi.
À ce stade, on a toujours eu.
Le tirage de cette année, c'est pas un cadeau non plus.
Non, c'est sûr, mais après, quand tu veux gagner la Ligue des Champions. Quand tu veux gagner la Ligue des Champions, si tu dois être capable
le Real ou le Barça. Juste sur le débat, ils n'ont pas trop de chance. C'était juste
ça. C'est vrai
que sur le tirage, pas trop de chance.
Pas trop de chance, mais d'un autre côté, le but ultime, c'est quand même de gagner la Ligue des Champions, pas d'aller en quart, pas d'aller en huitième, pas d'aller en demi. Bien sûr que tous les ans, on essaye de pousser, se dire, allez, on va franchir un camp. Le jour où tu veux faire, avec cette équipe-là, tu dois avoir l'ambition de gagner la Ligue des Champions. Donc à un moment, tu vas te taper le Real, tu vas te taper le Barça, City, ou la Juve, ou le Bayern. Enfin, je connais pas d'équipe qui soit allée en finale et qui l'ait gagnée sans passer par ces 4-là ou ces 5-là. Donc, à un moment, c'est maintenant, et c'est Liverpool, là, dès les poules.
On fait une première pause, 17h55, juste avant... Non, tu vas pas partir, Rico. Attention, reste là. Juste pour vous le dire, on va bien sûr parler encore et toujours de PSG-Liverpool pendant toute cette émission, mais dans quelques instants, on va regarder un sondage. Juste, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez ce qu'il s'est passé le 26 novembre 1997? Je vous laisse chercher 3 secondes. Il s'est passé quelque chose le 26 novembre 1997. Hein, je vous le dis. Non. supporter du PSG qui est autour de la table. Oh, bah, quel
triste,
scandale, c'est triste.
Triste. Mais oui, c'est triste. Triste.
Un but de Rabé sans Ratana, Rico Rabé sans Ratana, Göteborg, et oui.
C'est la première chose que vous devez vous rappeler.
Et oui, Franck Gava côté gauche et la tête. Dans les derniers instants, c'est on ça, s'est revu la vidéo, on vous l'a mis sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est un parking, le terrain. Hein.
Ah
c'est,
ouais. Moins 8, c'était comme ça. La même chose, franchement, c'est vrai, la même chose, comme ça.
Et là, tu vois Franck Gava qui sort, revient dans le centre, appuie, et là, tu vois les cheveux au vent. Et pique, et but de Rico Rabé sans Ratana.
C'est beau.
Bravo.
Merci, merci.
Allez, bon
tu t'es fait siffler par des passes pas un jour ou pas?
Je me suis fait siffler.
Tu t'es déjà fait siffler. Toute l'équipe, peut-être.
Non, moi, je n'ai pas souvenir qu'il soit fait siffler.
Non, je te demande.
Pour avoir été là souvent, voire tout le temps, non.
Eh, hey, regardez, transition. Et enchaînement. Hop, les sifflets.
Moi, non, mais quelqu'un, peut-être. Ouais.
Tonton, ça va aller?
Bah, ça va aller très bien. Bah.
D'accord.
Le tonton, il a mis de l'eau dans son vent sur Radio, j'ai l'impression.
Il s'est rapproché de la vérité.
Il a replongé.
Il a replongé.
On place le contexte, les amis, avant de parler justement du débat et de Rabiot. Les sifflets sont-ils mérités pour Adrien? Rabiot, présentation, Michel Montana, vous connaissez, vous allez au Parc des Princes. Un Marco Verratti. Et là arrive Adrien et on a la moitié du parc qui applaudit et une partie du parc qui siffle Adrien Rabiot. Tu les as entendus les sifflets, tonton?
Salaud de pauvre.
Oh, mais non, ça va pas ça. Mais on a si. Le droit de siffler aussi.
Ben, on a le droit et j'ai le droit de dire aussi
on
ce
est
que
en
je
démocratie.
Pense. Exactement. Voilà. Donc
n'oublions
je trouve
pas
ça dégueulasse.
Que quand t'es supporter, c'est le seul moyen de manifester ta colère, c'est de siffler. Si t'es pas d'accord avec quelque chose, si t'applaudis pas, tu siffles.
Alors, bah, ouais.
Petit tour de table.
Petit tour
on
de
a
table.
Fait un sondage d'abord. Émilie.
Tu veux le sondage d'abord?
Je veux le sondage d'abord. On a demandé si on comprenait les sifflets contre Adrien Rabiot. Juste pour information, que ça soit dans le Parisien, dans l'équipe, on en parle aussi. Canal Supporter aussi qui est allé faire un article là-dessus. En gros, il tourne le dos. Il commence à tourner le dos.
Attends.
Il fait un demi-tour de dos. Mais il est comme ça.
Reprenons.
Je veux bien rester, mais je commence à partir.
En gros, ça ne bouge toujours pas. Donc, comme ça ne bouge toujours pas, ça veut dire qu'il regarde ailleurs de plus en plus.
Et Thomas Tuchel a dit qu'il y avait quand même un problème. Thomas Tuchel sur TF1 Téléfoot.
La réponse, elle est claire quand même.
Quand même, a dit s'il n'y a pas de oui, ça veut dire
qu'il parle bien.
Oui, bah oui, oui.
Ah oui, il est
tonton.
Mais non, mais.
Donc, le sondage.
Je retiens,
t'as vu ça un petit peu comment gérer le tonton? Vas-y, balance le sondage.
Par contre, accrochez-vous, hein. Tenez tonton, parce que à 83%, les gens ont répondu que oui, ils comprenaient les sifflets contre Rabiot. Il faut savoir qu'il y a eu à peu près 400 votants.
Le président du fan club d'Adrien Rabiot,
qui est lucide sur les lacunes au niveau du jeu. J'ai
on
pas
ne
aimé.
Pas un joueur de son club.
Pour moi, je l'ai dit ce matin dans l'émission, dans la chronique, j'ai dit, et je répète, je vais le répéter ici, que pour moi, c'est comme si tu venais de t'engueuler avec ton mec ou ta nana, et que pour vous rabibocher, tu lui dis « et en plus, je t'aime plus ». Bah, ça va pas aider. Non, mais on a bien compris que là, c'est amour-haine. On est dans le petit espace qu'il y a entre les deux.
Parce que
c'est...
lui nous dit aussi qu'il ne nous aime plus en
mais
faisant ces mauvaises choses.
Il nous a rien dit du tout.
Et non, justement, en ne disant rien.
Bah, il nous dit pas
le silence
aime.
Est horrible
attendez,
dans un couple.
Attendez, c'est un joueur.
Exactement.
Tribune amour PSG.
Deux secondes, c'est quand même. Attends, c'est un joueur professionnel. Aujourd'hui, c'est un joueur professionnel qui doit penser à sa carrière, qui aime le Paris Saint-Germain, il nous l'a montré, il a été formé. Aujourd'hui, apparemment, s'il n'a pas dit oui, c'est que le Paris Saint-Germain lui propose quelque chose qui ne lui convient pas. Respectons ça.
Tu t'énerves.
Les réactions sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est très bien et on va reprendre derrière. Les réseaux sociaux crépitent dès que tu dis Adrien Rabiot en ce moment. C'est le mot qui fâche ou pas?
Alors, avant, je fais une petite intro comme ça. Claude te dit, salut tonton Steph, je partage à 200% ton édito.
C'est gentil,
bon,
merci beaucoup.
Et après,
beaucoup,
par
Claude.
Contre, attention, accroche-toi. Ça, c'était la biscotte.
C'est sa façon d'isoler. Ta voix trouvée, Claude.
L'intro cool.
Jordan qui nous dit Rabiot, il faut surtout qu'il rentre avec ses 1-1 sur le terrain pour faire toute sa com et qu'à nouveau. Ah oui, et qu'il n'ait pas son pas nonchalant. Jérôme nous dit le problème avec Rabiot, c'est l'absence totale de communication de sa part. Il entretient le flou artistique et à force de lire Rabiot n'a toujours pas prolongé blablabla, eh bien, il ne faut pas s'étonner des sifflets. J'en ai encore deux. Il y a Nicolas qui nous dit c'est pour le faire réagir aussi ses sifflets. Et là, moi, je suis plutôt d'accord. C'est une façon aussi de faire réagir. Et Jack nous dit c'est mérité car il rajoute de la tension autour du club avec les médias.
Rico et après Laurent Perrin et après les copains qui sont aussi à ma gauche.
Il y a deux choses. Moi, je suis aussi d'accord avec Tonton.
Voilà, parce que il y a cette histoire de contrat, il y a cette situation a été créée par le club, donc il faut pas non plus cracher sur Rabiot de ce côté-là, parce que c'est plutôt intelligent de sa part, contractuellement. Maintenant, moi je te parle des performances sur le terrain. Et là, on est très loin de ce qu'il doit amener. Et c'est pour ça que je comprends à moitié les sifflets. Et d'un autre côté, le club est responsable de cette situation. Mais les prestations sur le terrain, il amène plus qu'il amenait, il frappe plus au but, on en a parlé tout à l'heure, il est plus décisif, il est dans le jeu pour participer, pour construire, mais il ne prend plus aucune décision ou de risque par rapport au jeu qu'il pouvait faire avant.
Qui prend la main sur Adrien Rabiot? Laurent Perrin,
pour faire assez court principe de vieux con, on siffle pas ses joueurs. Voilà.
Et bah voilà, camarade.
Une fois que j'ai dit je peux comprendre qu'il lasse les gens, parce qu'il y a eu l'épisode équipe de France. Et puis là, effectivement, sur le terrain, il est pas royal. On sait pas trop ce qu'il veut faire. Ça manque de communication.
Ça, j'ai oublié de le dire, mais ça aussi, le manque de communication, c'est quand même important. Et là, il est en train de faire traîner les choses. Et ça joue pas dans sa faveur.
Chacun reste à sa place. Et si jamais il y a des supporters qui veulent le garder au PSG, mais j'ai l'impression qu'ils sont de moins en moins nombreux, plutôt que de le siffler, il vaut mieux l'encourager et lui dire reste avec nous. Ce serait un signal. Parce que vu que le garçon, visiblement, est très très sensible. Si vous voulez le garder, bah dites-lui, il reste avec nous. Voilà. Et si vous n'avez plus de lui, bah continuez à siffler et il va partir. Mais je pense qu'il va partir.
C'était peut-être pas le meilleur moyen de le mettre à peu près stable. Alors déjà qu'on n'a pas beaucoup de milieu de terrain, en gros.
Ouais, mais en fait, je trouve qu'il a déjà eu trop de chance à son actif. Il a eu des retards, il n'accepte pas les sanctions face à Marseille. Il est pas bon sur le terrain, il accepte pas. C'est apparemment les sources diraient que il était partant pour prolonger, mais la sanction qu'il a eue à Marseille lui a fait changer d'avis.
On
a
un genre professionnel. C'est des interprétations. Mais après, j'ai entendu Rabiot dire. Qu'importe. Alors parce que j'ai été sanctionné, je me casse.
C'est pas grave. Je vais te dire, ça me coûte de dire ça en tant que journaliste du Parisien, mais on n'en sait rien.
Ouais. On en sait peut-être rien
parce qu'il ne dit rien à personne. Ouais. Et je pense que c'est un garçon qui est hyper secret, et même avec ses partenaires.
Ouais, mais il y a trop de rumeurs à chaque fois sur son entourage, sur la gestion, sur sa communication. À un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu. Et dans tous les cas, de toute façon, ses performances, elles sont pas bonnes.
Oui, mais c'est ça que tu juges à la fin. C'est pour ça que le problème pour lui, c'est que tu juges ses performances et après, bah, tu fais l'amalgame avec la situation contractuelle.
Non, c'est pas un amalgame. On l'a vu dans certaines situations, notamment avec l'équipe de France. C'est quelqu'un qui est mal géré. Il y a un gros problème de communication. Et ça se répercute encore plus sur le club où il se sent plus fort. Après, concrètement, Rabiot se sent plus puissant que le PSG.
Oui, mais Malgeri, si dans 6 mois ou dans un an, il est au Barça, titulaire au Barça.
Mais tu penses vraiment qu'avec cette attitude, il peut être titulaire au Barça?
J'en sais rien.
Regardez ce qu'ils font avec Dembélé, comment lui peut être titulaire au Barça?
Ça veut rien dire.
C'est vrai que ça veut rien dire. Mais avec cette attitude-là, c'est pas comme ça qu'il le sera.
J'ai envie d'entendre notre invité, Damien, qui est avec nous, Damien Dolchabourini, auteur du livre Paris dans les veines.
Un peu la pression, Damien.
Il faut faire un choix.
Tu siffles ou tu siffles pas?
Moi, j'ai quasiment jamais sifflé de joueur.
Dans le livre, vous pourrez voir que Sylvain Armand, c'est pas trop son truc.
Sylvain Armand, c'est un autre problème. Mais je pense qu'il y a une forme de lassitude et qu'en fait, les sifflets, moi, je les interprète pas comme quelque chose par rapport au terrain et par rapport au niveau de jeu. C'est paradoxal. Mais je pense plus que c'est une lassitude par rapport à une attitude. Après, qu'elle soit justifiée ou pas, en fait, comme on est dans un monde où tout le monde surcommunique, que tout le monde communique à la nanoseconde, du coup, le fait de voir Rabiot, en fait, ne rien dire sur sa situation, rester mutique, rester comme ça, en fait, il y a des supporters, en fait, je pense qu'ils sont tout simplement lassés et qu'ils voient que l'échéance finale arrive. Je l'aurais pas sifflé.
On est d'accord. Demain, ils re-signent au Paris Saint-Germain, ça changera rien. Tout le monde aura l'air malin.
Bah, ça changera rien.
On a sifflé rien du tout.
S'ils prolongent, on le revend plus cher.
Après, le stade, c'est une agora, tu vois, des fois, tu vas avoir certaines pulsions positives ou négatives. Après, on a tous aussi changé d'attitude en fonction des conséquences.
Ce qui peut être difficile à gérer pour lui, c'est que ça donne quand même l'impression qu'il ne respecte pas le club. Puisque je disais tout à l'heure, on n'en sait pas. On ne sait pas ce qu'il a dans la tête, on ne sait pas ce qu'il pense. Mais on est sûr que le club lui a proposé une prolongation et plutôt un très joli contrat. Ça on le sait. Donc, le club de ton cœur, hein?
Non, mais toi, tu sais peut-être, mais nous, on sait pas exactement à quoi ça correspond et par rapport. On sait pas si c'est vraiment un bon contrat.
Une prime de prolongation de plusieurs millions.
D'accord.
Quelque chose de vraiment lourd parce que depuis que Nasser El-Khelaifi s'est mis dans le coup,
il a dit bon, alors inversons Laurent.
Et puis, c'est quoi, on s'écoute et après on échange.
C'est pour ça qu'il est fou. Mais parce que Rabiou, je pense que lui, il se voit ailleurs. Il a envie de changer. Je pense profondément. Mais quand je dis ça, ça n'engage que moi, puisque comme Rabiou ne dit rien, la seule chose,
c'est pas respectueux. C'est pas respectueux.
Exactement ce que je dis.
Dans tous les cas, son image, elle avait été cornée.
En tout cas, sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, ça dégringole pour Adrien. Qu'est-ce qui se passe, Émilie?
Oui, et c'est hyper intéressant parce que c'est très complémentaire. On devrait arrêter de parler et lire que les commentaires, je vous assure, ils refont des
débats. Ça peut être long comme émission. Hein. C'est, on fournit un peu
l'image.
Je crois qu'elle veut son émission
pour être ensemble. Tribune Page, 24 heures non-stop. Il y a Pierre qui nous dit « Être en situation de force au niveau contractuel ne doit pas amener à se voir trop beau. » Et ça résume en tout cas un peu ce que tu dis, Joss. Roman nous dit « Le problème dans cette histoire, c'est que les torts sont partagés et qu'on dirait que personne ne fait un geste vers l'autre, le club vers lui et son entourage vers le club. Malgré son comportement, on ne pourra pas reprocher à Rabiot d'avoir honoré son contrat. » Petit bémol. Bon. Et Thibaut nous dit un peu starlette peut-être le garçon quand même.
Et juste, petite information quand même à bien préciser, quand tu disais on ne sait pas trop, effectivement, on n'arrive pas à sonder son crâne, ça, il n'y a pas de souci. En revanche, par rapport à son agent, je sais, c'est sa maman, mais je reviens sur le côté agent et pas autre chose.
On va parler de sa mère. Hein,
le match de Lille, oui, mais le match après Lille où il est remplaçant, elle est allée faire un foin pas possible. Elle a demandé rendez-vous à Maxwell, ça je peux vous l'affirmer. Elle a demandé rendez-vous à Jean-Claude Blanc. Elle est allée foutre un foin. Pas possible dans les vestiaires. Non, mais c'est pas possible. Il y a un moment.
Si c'était pas sa mère, est-ce qu'on en parlerait autant? Non. S'il avait un agent lambda qui faisait autant suer que sa mère.
Tout agent ne ferait pas ça. Et pour rejoindre ce que disait Joss tout à l'heure, quand je disais peut-être dans un an il sera au Barça, mais effectivement, toutes ces péripéties, les autres clubs regardent. Et c'est un petit milieu, tout le monde sait.
Voilà, je suis pas sûr que ça.
Sur un truc comme ça.
Quand tes performances, parce que les clubs, ce qu'ils regardent beaucoup, c'est est-ce que tu vas t'intégrer, est-ce que tout va bien se passer.
Non, mais sur le terrain, je suis d'accord. Sur le truc contractuel. Là, la situation, c'est la faute du club. Pour moi, c'est pas de la faute de Rabiot, c'est la faute du club.
Ce que je veux juste te dire, c'est que
le club va pas s'occuper de ça parce que c'est le club qui s'habille comme ça. Par contre, les prestations sur le terrain, là, je suis d'accord avec toi,
je suis d'accord aussi pour dire qu'en ce moment, Rabiot, il est pas bon sur le terrain.
Dans tous les cas, vu son potentiel et vu son poste, il sera toujours courtisé par des grands clubs parce que c'est gratuit. Il a une prime à donner, mais c'est tout à fait abordable pour des gros clubs comme le Barça. Ils peuvent tenter le pari et le revendre même plus cher après, quoi.
Peut-être.
18h08, c'est l'heure du coup de cœur ou du coup de griffe, puisqu'il va falloir continuer et avancer dans cette émission. Oui, Adrien, on t'aime bien, ou quelquefois on t'aime pas, mais en tout cas, on t'aime moins, mais on a quand même fait encore 10 minutes sur Adrien Rabiot toutes les semaines. Ça va s'appeler le
va
faire un petit jingle Rabiot Show.
Va partir,
oui, bah, on trouve un autre. T'inquiète, on en trouve un autre. le coup de cœur d'Émilie.
J'aurai toujours un coup d'avance.
C'est ça,
il est déjà prêt le deuxième.
C'est qui?
Ah non, bah, on attendra.
Très bien. Le coup de cœur d'Émilie.
Mon coup de cœur, moi, c'est le match de samedi. Il y en a un qui m'a fait plaisir. C'est le retour d'Alves. Alors que je ne m'attendais pas à être aussi contente de le revoir fouler la pelouse. Je l'ai trouvé, en forme. Je l'ai trouvé... Alors, OK, vous allez me dire c'est tout, etc. Je l'ai trouvé dans son match. Je l'ai trouvé en place.
Moi, je l'ai trouvé
c'est un match de reprise, une prestation de reprise. C'est-à-dire qu'il est revenu, il était là juste pour retrouver du rythme et il a
appliqué.
Fait du simple.
Il était appliqué, en fait.
Exactement, il a, en tout cas.
Bon, après, il n'a pas eu grand-chose à faire non plus, donc c'est vrai qu'il n'a pas été mauvais.
Excuse-moi, là, pour le coup, on peut faire un global.
Elle a un coup de cœur.
Moi, j'étais contente de voir Alves fouler la pelouse et je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'avoue que je l'avais un peu oublié.
On ne l'a pas oublié sur les réseaux sociaux.
Non, mais.
Alors, moi, je l'ai trouvé surtout très, très bon en zone mixte après le match. Avec d'excellents déclats.
C'est vrai.
C'est la transition, non?
Ah, monsieur, tu es merveilleux, tu devrais être chef.
Vas-y.
Effectivement, il est venu nous voir, il a fait des stops en radio, en télé, il est allé voir les médias brésiliens, etc., etc. Pour accéder à la finale de la Ligue des Champions, il faut se battre les uns pour les autres, se dire... Ton problème est le mien et mon problème est le tien. C'est de cette façon que l'on forme une grande équipe. En Ligue des Champions, on doit se battre comme des animaux. autre déclaration, s'améliorer, ça passe aussi par l'état d'esprit. C'est bien, il a eu le temps de faire une analyse pendant six mois.
C'est parfait. Il a parlé d'état d'esprit. C'est le même mec qui avait piqué le ballon à Cavani.
C'est ça.
Mais moi, je me suis demandé, je te jure, quand je l'ai vu rentrer sur le terrain, je me suis dit, mais au fait, lui, dans son état d'esprit, est-ce qu'on n'en a pas besoin, tu vois, de son mental en Ligue des Champions? Je ne dis pas de son jeu, mais de son mental, sa grinta, c'est un chien de la casse quand il joue. Et je me dis qu'on en manque peut-être un peu là, en Ligue des Champions.
Un Alves sans forme, t'as besoin de ce joueur-là, bien sûr. Bah, après, c'est juste une question de forme. Sinon, bah, le mec, quand il était au
Barça, quand il était même un petit peu moins à la Juve.
Mais il avait quel âge, les amis?
Il dégageait quel âge aujourd'hui?
À la Juve, il fait très mal à Monaco.
À la Juve, il avait quel âge?
Non, mais c'est sa gestion.
Il a 36 ans, les gars.
Oui, mais il y a sa gestion.
L'an dernier, la gestion de Unai Emery a été chaotique. Il ne fait pas jouer tous les matchs,
mais quand même.
C'était ça l'erreur. C'était de faire l'alternance avec Meunier. D'abord, un aurait été content et l'autre aurait pu se reposer. Et tu serais arrivé au moment clé avec
les deux en forme.
Exactement. Voilà.
Daniel Alves, coup de cœur pour son retour, Damien?
Oui, parce qu'en fait, déjà, s'il est dans le groupe, ne serait-ce que de le voir dans le vestiaire, de le voir sur le banc, de le voir, si ça se passe mal en première mi-temps, sûrement gueuler sur des joueurs et être notamment une des rares personnes qui peut dire des choses à Neymar.
Comme Gigi.
Je pense dans une mi-temps. Ouais, je pense que c'est indispensable parce que contre Liverpool, Paris a évidemment techniquement et même tactiquement avec un mec comme Tuchel toutes les chances de remporter ce match, vraiment. Après, on sait que le problème de Paris dans les grands rendez-vous, c'est pas forcément technique ou de talent, c'est mental. Ça a toujours eu le 6-1, une grosse chute mentale, on va dire.
J'ai pas dit le mot.
Non,
dans les veines, vous pouvez y aller. Les premières lignes, tu sens Damien la sortie du 6-1. Moi, un peu tendu.
Ce que je remarque surtout, c'est que Alves, il est revenu et il a directement parlé de l'état d'esprit. C'est quelque chose qu'on n'arrête pas de développer avec Emily. Il a pointé vraiment ce problème de prendre les matchs de Ligue 1 vraiment comme la compétition européenne afin d'être prêt lors de ces rendez-vous-là. Et j'espère que son retour, justement, les joueurs vont avoir cette même mentalité.
Mais par rapport à... Oui.
Non, ce qui est bien aussi, c'est qu'il a joué aussi avec Buffon. Donc il y a une connexion déjà de fait avec Buffon. Donc ça peut être aussi positif pour le vestiaire, comme on l'a dit. Mais voilà, c'est une force supplémentaire pour l'équipe.
Émilie, Dani Alves, ça fait réagir aussi le retour de Dani, le musicien, le saltimbanque, le troubadour de cette équipe du Paris Saint-Germain.
Tu vois, j'avais presque oublié. Quand je l'ai vu, même effectivement dans ses déclarations et tout
ça. Tiens, c'est un joueur.
Parce qu'on l'a allumé, sur le premier trimestre.
Exactement.
On disait qu'il était...
Sur sa communication toute pourrie et auto-centré, voilà, là c'était
tant
un joueur.
Tant qu'il met pas des gifles,
un poulet.
Oh là là, il a totalement
parlé.
Je pense qu'il va finir interné, lui.
Oui,
je pense qu'il est en train de perdre la boule totale. On ne donnera pas le nom.
Patrice Evra, bien le bonjour. Oui,
si on le donne.
Alors, Alves, ça fait réagir dans. C'est mitigé. Il y a Thibaut qui nous dit: a-t-on vraiment besoin de voir Alves revenir? J'ai des doutes sur sa capacité à revenir à un niveau de forme digne de la concurrence avec Meunier. Guillaume nous dit: la niaque d'Alves fera du bien. Et Globule dit: Alves avec une défense à 3, ça peut être moins mauvais qu'à 2 et qu'avec Meunier qui n'apporte pas grand-chose depuis un moment.
C'est pas faux. C'est-à-dire que dans un rôle effectivement où
il est plus haut,
ça peut être très intéressant.
Dernière chose, c'est l'anniversaire de Moussa qui nous écoute et donc on lui souhaite un bon anniversaire. N'hésitez pas.
Honnêtement, dans un 3-5-2, ça peut être compliqué, moi je pense, pour lui. Vu son état de forme, vu tous les efforts qu'il devra faire offensivement.
Non, mais attendez, je veux juste être d'accord.
Compliqué.
Il
n'est
pas titulaire.
Non, face à Liverpool,
ça fait plaisir de le voir, machin, etc. Mais il n'est pas prêt à.
Il n'est pas prêt à jouer, mais il a été.
Excusez-moi, je peux pas demander.
On a vu d'ailleurs qu'il manquait de repères samedi, et c'était Toulouse. Ah là, si tu l'envoies à l'abattoir contre
Mané, c'était le bus. Vous savez pourquoi Emilie l'a aimé? Parce qu'il y a eu le gros câlin aussi avec Max-Alain Gradel. C'est aussi pour
ça. J'avoue, cette image,
c'est sentimental.
Mais
heureusement que tu apportes ta touche de féminité.
J'aime l'humain, moi.
Attends, Gradel s'est fait allumer par Habib Bey. On embrasse Habib. Mais Habib a été un peu dur en disant: ouais, c'est pas bien.
Mais il savait pas la raison. Non, attention, moi j'ai dit à Habib. Moi j'ai compris Gradel après. après parce qu'il a donné une explication, mais c'est vrai que sur le, au départ, sur le, tu fais pas un câlin à un mec qui rentre de l'équipe adverse. Là, je suis d'accord avec Camille, mais c'est vrai que quand tu comprends le après l'explication où lui, il a eu deux fois cette blessure, donc il sait d'où il revient. C'est pour ça que là, on comprend mieux le.
Bah oui. Mais parce qu'en fait, c'était dans un débat où on disait que les équipes, il y avait pas assez de combativité, et donc Bay a dit que oui, en plus le capitaine fait un câlin au joueur adverse, et donc voilà, c'était plus dans ce débat là quoi.
On est dans la calinothérapie permanente.
On se fait des bisous. Allez, les enfants, on passe à la suite et on va parler du livre Paris dans les veines avec notre invité Damien Dolchabourine, journaliste à Libération, mais supporter ultra. Faut le souligner, ex-ultra, ouais. Oui. Mais
ah, j'ai cru qu'il allait dire ex-supporter.
Non. Alors là, je peux vous dire que ça se sent pas du tout dans le livre. Hein. Là, il y a pas, c'est toujours un supporter rouge et bleu, ancien des Authentics. Donc voilà, groupe dissous et voilà, qui on va pas revenir. Pourtant, tu en parles à l'intérieur du livre justement. Et comme je l'expliquais, en fait, ce livre qui est assez agréable parce que, comme je vous l'ai dit en introduction de l'émission, on s'identifie très facilement à ce que tu nous proposes puisque c'est un agenda tous les jours.
Voilà. On s'identifie, mais non, mais ce que j'ai aimé beaucoup, c'est que tu fais vraiment ressentir des choses qu'on a ressenties personnellement. En tout cas, moi, à titre perso, c'est vraiment des choses que j'ai ressenties et c'est ça qui est très intéressant parce que tu as su l'écrire tout simplement et c'est un art de savoir faire passer des choses.
Ouais,
il passe des choses dans ton livre.
Juste pour expliquer comment t'es venu l'idée en fait de mettre ces deux passions. Enfin voilà, tu es journaliste, c'est ton métier, t'es à Libération. Comment ça te vient de te dire tiens, si je faisais le journal de bord en fait finalement d'un supporter pendant 365 jours sur ce qui est en train de se passer au PSG.
Bah en fait c'est comme j'ai raconté, tout est parti de ce truc-là de Neymar qui, je pense, encore une fois, même si tu disais, Eric, tout à l'heure, qu'il y a eu toujours des transferts un petit peu comme ça, qu'on attendait. Ouais. Mais le transfert de Neymar, pour moi, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, encore plus quand tu es supporter du Paris Saint-Germain, quand tu es supporter de Manchester, du Real, etc.
Parce que tu y crois plus par rapport à un transfert de Ronaldo, je veux dire, tu crois plus au transfert de Neymar parce qu'il est plus jeune, parce que tu te dis que derrière, il y a un avenir, qu'un Ronaldo qui vient finir ici, un peu comme tu dis, en retraite.
Mais du coup, en fait, quand t'es supporter du PSG, tu sais en plus ce qui s'était passé dans le mercato précédent, où Neymar avait fait croire que, et puis en fait, bon, il y a eu des retournements, on ne sait pas si vraiment, ça c'est au dernier moment, finalement, il a vrillé, il n'est pas venu, ou si c'est juste servi du PSG pour avoir une augmentation. Mais en tout cas, en fait, quand la rumeur arrive, même si le journaliste Marcelo Bechler, journaliste brésilien qui balance le premier là, qui fait l'explosion là le soir quand ça arrive, c'était dans l'après-midi, voilà, ça a bien réveillé tout le monde, mais tout le monde au début dit non ça n'arrivera pas en fait, et du coup en fait je pense que ce moment qui est en tout cas en termes de mercato, qui est peut-être un des moments les plus forts de l'histoire du PSG, mais juste d'un point de vue du mercato, parce qu'on est dans des sphères qui, je pense, qui dépassent l'entendement.
C'est ouf, oui, bien sûr.
On n'était pas habitué à ça. Jamais un joueur de... Quand on a su, la première fois qu'on a entendu Neymar au PSG, on s'est dit, ça, c'est pas pour nous.
Puis maintenant qu'on
l'a, on
est bien
parlé
content.
De Cruyff, on nous avait parlé de Platini, on nous avait parlé de Maradona, on nous avait parlé de tout le monde, mais ils n'étaient jamais venus. Et là, pour la première fois, on parle d'un des trois meilleurs joueurs du monde, et on nous dit, il va venir au PSG. Et non seulement, il va peut-être venir, mais il vient.
Ce que j'aime, c'est les petites réflexions. Ça ne nous rendra pas le Parc des Princes d'avant 2010 et le plan Le Prou, mais c'est toujours ça de prix. En fait, en gros, quand Barcelone capitule et dit « bon, allez, c'est bon, il va partir ». Voilà, ce genre de petites annotations. En fait, c'est les petites réflexions qui viennent. Il y a une mise en place, en fait, un peu du supporter, mais il y a aussi la réflexion journalistique. Et tu expliques comment tu vis ta passion de supporter. Tu vas sur des sites internet, tu mets en parallèle avec Le Parisien, avec L'Équipe. Tu dis, je vais sur Culture PSG, que t'aimes beaucoup, la team de François Donat, qui est un ancien de la maison Tribune PSG. Tu mets tout ça en perspective et finalement, ça se lit bien. Alors, par contre, ça fait bizarre, bien sûr, de revenir en arrière et de se faire tous les jours, mais après de se dire, où est-ce que j'étais là? Alors attends, là, pas mal.
Exactement.
Ça t'a fait ça aussi?
Oui, ça m'a. Surtout sur la partie transfert de Neymar, parce que j'étais un peu au cœur de l'action et effectivement, il y a eu quelques coups de chaud. Moi, en lisant ça, en fait, parce que c'est effectivement bien écrit, on se plonge dedans et ça se lit bien. Alors, on peut le lire du point de vue du supporter. Moi, je l'ai plutôt lu du point de vue journaliste. Et la question que je me pose, c'est... Alors, il t'arrive, toi, à Libé, de traiter du PSG, mais est-ce que le fait d'être supporter du PSG, tu penses que c'est un avantage ou un inconvénient ?
Je pense que c'est ni l'un ni l'autre, en fait. Quand tu rentres dans un quand j'ai écrit cet été sur le transfert de Buffon, mais plus un décryptage, c'est-à-dire pas forcément la partie actu, mais plutôt qui est Buffon aujourd'hui, quel est son état physique, qu'est-ce qu'il a fait dans la dernière saison, et puis qu'est-ce qu'il peut apporter au PSG, que ce soit au vestiaire ou sur le terrain. Du coup, en fait, finalement, c'est assez naturel de changer de casquette et de se dire, du coup, on va appeler des gens dans un objectif très précis, on va demander des arguments, des citations de personnes qui connaissent vraiment le sujet, et après mettre tout ça en forme. Et en fait, finalement, c'est une fois que t'es plongé dans le truc, en fait, en plus, je finissais le bouquin pendant que j'écrivais le papier sur Buffon, donc du coup, mais finalement, c'était pas si difficile que ça. Je pourrais pas forcément d'ailleurs l'expliquer, mais je pense qu'il faut juste se concentrer, en fait, sur les arguments, le factuel et l'analyse.
Bon, là, tu t'en es très bien sorti, j'ai une deuxième question. tu travailles dans un journal qui est souvent très dur avec le PSG. Mm-hmm. Comment tu le vis ?
Putain, ça c'est la question à la con, ça.
Il a dit des gros mots.
Il a dit gros mots. Tu le sais, dans cette émission.
Tu peux faire un appel à un ami. Hein.
Après, tu sais, chacun est libre d'écrire ce qu'il a envie. Moi, finalement, on se retrouve dans... Enfin, tu vois, il y a un journal, oui, il y a des papiers qui vont être durs avec le PSG, mais qui sont aussi durs avec l'OM ou avec l'OL par ailleurs. Mais c'est aussi un journal qui m'a permis d'écrire ce type de papier-là. Finalement, en fait, il y a un spectre qui est assez large. Après, on a une liberté parce qu'on a un journal, on va dire, généraliste. Donc, du coup, on peut se permettre, comme on sort assez souvent de l'actu et qu'on fait plutôt du mag sur le sport, on peut se permettre, en fait, d'avoir des points de vue qui sont radicalement différents. Et c'est sûr que le papier qu'a pu écrire Grégory sur Marco Verratti, qui était, par ailleurs, j'étais très satisfait, ce qui était très positif sur Marco Verratti. C'est sûr que moi, par exemple, j'aurais pas pu l'écrire parce que j'ai appelé mon gosse Marco pour Verratti. C'est sûr que moi, par exemple, si tu veux, je suis blacklisté direct. Verratti dirait, je veux faire le portrait, c'est Damien Doll. Et Libé dirait, hors de question, tu vois.
Parce qu'on explique que Damien, voilà.
J'appellerais mon fils Yuri, moi. Pour
Verratti. Ravi, on a été refusé, par ailleurs. À la maison.
Là, t'as tenté Ravière, moi, j'en connais un autre aussi. Je fais un gros bisou à Mathieu Fort.
C'était refusant quelques jours, ça.
Voilà. Juste pour expliquer, la banlieue, le 12e arrondissement, désormais, grâce à toi, le 13e.
Le 12e, j'ai un déménagement pendant le...
Voilà, ça déménage. Donc, comme ça, on s'installe dans le canapé, on regarde, parce que, en fait, t'es aussi un supporter qui a boycotté le Parc des Princes. Et en fait, grâce à ce livre, tu es retourné au Parc des Princes, voilà, avec le collectif Ultra Paris de retour, le parc avec Neymar et Mbappé sur la pelouse. Tes sensations quand tu retournes au Parc des Princes après l'avoir quitté, après le plan Leproux, après tout ce qui s'est passé, la dissolution des associations, etc.
Bah, finalement, du coup, je suis maintenant Libé a déménagé à Ballard, super quartier, génial. Quand on compare par rapport à République, bon, ça c'est un autre sujet. Mais bref, un des avantages, c'est qu'on peut aller à pied au parc. Et je pense que je pourrais me rappeler, mais vraiment de quasiment tous les mètres parcourus à pied. Du coup, j'ai même pas voulu le faire en transport, je l'ai fait à pied. Et jusqu'au parc, parce que c'était un moment qui était vraiment très particulier. Je me rappelle, j'étais vraiment, carrément, j'avais une boule au ventre, comme si je repassais de nouveau le bac ou j'en sais rien. Et après, une des chances, entre guillemets, que j'ai eues, c'était que le match pour lequel je reviens, c'est un match où le CUP il y avait eu un huis clos partiel qui avait été déclaré après les fumigènes contre Nice. J'ai entre guillemets, parce que par ailleurs, moi, je suis pour les fumigènes dans les stades. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais du coup, ça m'a permis, en fait, de voir un parc, on va dire, un parc hybride, sans le virage Auteuil rempli. Mais le match suivant, en fait, je suis retourné le match suivant au parc. Là, il y avait le CUP qui était là. Et finalement, en fait, je pense d'avoir fait cette transition avec un parc sans les ultras, ça m'a permis de faire mon deuil plus facilement. Et du coup, je parais très très positif. Et même si encore une fois, voilà, des personnes qui sont un peu nostalgiques ou même un petit peu dans la critique facile, dire c'est pas aussi bien que dans les années 90-2000. Mais être ultra, je pense en 2018, c'est beaucoup plus difficile que de l'être dans les années 90 et 2000. Et donc j'étais plutôt impressionné d'ailleurs de leur tenue des du virage.
Damien Dol Chabourine est avec nous. Paris dans les veines, on vous le conseille. Voilà, vivre 365 jours. Vous allez voir, ça va juste vous, ça va vous permettre de replonger dans une saison un petit peu folle du Paris Saint-Germain et de voir si vous aviez les mêmes réactions. Tu voulais réagir tout à l'heure, Rico.
Non, t'étais en train d'écouter. Non, juste une question.
T'as failli te prendre le décor sur la tête. Je t'explique un truc. Faut pas se pencher comme ça, Rico. Faut faire attention. Et elle a eu peur. Et tu sais quoi, Émilie, elle a eu super peur. J'ai vu le truc qui bouge. Rico, faut faire attention quand même.
Excuse-moi. Là, j'ai une question. Mais c'est pour revenir en arrière. En fait, toi, t'es supporter, donc tu fais tes articles.
Il se rappelle de toi, parce qu'il t'a vu dans les tribunes.
Non, mais tu fais tes articles dans ton journal. Est-ce que, du coup, tu es repris par tes chefs pour changer parce que tu es supporter de Paris et que. Est-ce qu'il y a une intervention, justement, de. Comme certainement ils savent que t'es supporter de Paris, est-ce que, justement, à un moment donné, juste avant de sortir le truc, ils te reprennent pour te dire, ah non, là, c'est trop.
Non, franchement, par exemple sur le papier de Neymar, parce que toute la première partie, en fait, c'est pas une reprise, parce que du coup, je l'ai réécrit, j'ai enlevé certaines parties, j'en ai rajouté d'autres. Mais c'est un papier qui est avant tout sorti dans Libé, que j'écrivais en fait tous les matins. Je me levais à 7h, 7h30, et puis du coup, je l'écrivais, je le publiais pour vers 9h, 9h30. Et je peux te dire que du coup, j'ai jamais eu quelque chose de censuré. Mais là, c'était un texte qui était un petit peu particulier. C'était un texte qui était un peu hybride, qui est pas un texte journalistique classique, on va dire. Mais après, par exemple, sur le papier sur Bouffon, en fait, je me suis fait vraiment reprendre sur rien du tout, parce qu'en fait, quand tu te mets devant ton clavier, en fait, tu sais d'où tu parles, en fait.
Oui, mais ça veut dire que t'arrives à avoir cette objectivité
je pense que c'est juste, il faut se concentrer sur l'analyse. Et après, c'est marrant parce que du coup, ce qui peut être toléré, par exemple, pour les journalistes politiques qui vont venir avec, par exemple, plutôt un reliquat de. On va jamais reprocher au Figaro d'écrire un article de droite ou au LFI d'écrire un article de gauche. Alors, on sait que les journalistes ont leurs propres expériences. Et par contre, pour les journalistes sportifs, c'est parfois plus reproché. Alors qu'en fait, si un journaliste fait bien son boulot, peu importe, je pense, son passé, ses passions, et ben il peut écrire quelque chose d'objectif ou neutre, jamais. Personne n'est neutre totalement.
D'accord.
Mais on peut l'approcher.
Moi, je dis ça comme ça, mais dans la caravane Paris Saint-Germain, ils sont quand même nombreux à avoir fréquenté le Parc des Princes à une certaine époque dans leur jeunesse. Oui, Émilie.
Il y a Régis qui nous dit une émission sponsorisée par Bernard Pivot, grand amateur de foot. Ça donne envie d'acheter le livre ou de le gagner, en tout cas.
Voilà, il faut partager l'émission.
Et Joannie a une question pour toi. Damien, il est à 50% journaliste et 50% supporter, ou le fait d'être un ancien ultra le fait être 45-55 ou 40-60?
Non, en fait, c'est vrai que c'est. Certaines personnes vont hiérarchiser souvent la manière d'être supporter, en gros, où les ultras seraient plus supporters que les supporters lambda. Je pense juste que c'est une question de pratique, en fait, et que quand j'étais dans le stade dans les années 2000, ou même quand j'y étais, parce que j'étais très tôt.
T'as connu Rico avec un maillot?
Oui, bien sûr, mais mes premiers matchs, c'était dans les saisons 96, 97, 98, 99, tout ça.
Mais ton premier fils s'appelait
Rabissan Ratana. C'est ça. J'ai réussi à le faire passer. mais du coup, tu vois, quand j'étais au stade, en fait, c'est juste mes pratiques qui étaient différentes, mais je pense que les personnes qui étaient en latéral et qui venaient au parc, il y en avait qui avaient exactement la même intensité.
C'était une autre époque, c'est vrai que c'est difficile de.
En fait, encore une fois, c'est pas une terme.
C'est pas une répartition, je suis d'accord avec toi. Moi, je me sens 100% journaliste, mais je me sens aussi supporter du PSG. J'aime ce club. Je l'ai aimé avant de faire ce métier-là. Mais il n'y a pas une répartition. Il y a des moments. Des moments où tu es 100% journaliste et des moments où tu es dans le stade et tu es là pour apprécier ton club ou ton.
Juste pour finir, parce qu'on en parlait effectivement avant d'entrer aux Parisiens, nous. On en a eu, hein, on en a encore quelques-uns, d'anciens supporters qui sont devenus journalistes. Ils font leur métier honnêtement, oui, et puis ils sont pros. Alors quand c'est des papiers d'info ou d'analyse, ça ne pose pas de problème. Quand il faut y mettre un petit peu plus de jugement, c'est là où c'est plus compliqué, parce que bizarrement, soit ils sont trop durs,
oui,
soit ils sont trop indulgents. On a les deux. Et quand, aux Parisiens, on est plusieurs journalistes à travailler sur le même sujet et qu'il faut essayer de garder une ligne, c'est toujours les moutons qu'il faut rattraper comme ça. Reste là. Mais parfois, c'est les anciens supporters les plus durs.
Ah bah oui, ça se sent. Le débrief, ce qui est génial, c'est que les joueurs te disent « Oui, la presse a été très méchante avec nous pour la remontada ». Si tu les poses avec 50 supporters,
ils peuvent être des virages, dire.
De latéral au présidentiel. C'est ça,
je
pense qu'ils restent
là-bas. Je vais t'expliquer ma gueule de bois, alors que je ne vois pas pendant deux jours.
Ils sont désossés le quart, ils rentrent à pied de Barcelone. Je pense qu'ils sont nombreux à avoir pensé. Là, même chose, juste petit message de Michel.
Voilà,
tu l'avais bien repéré?
de Michel du Panama.
Ah bah oui.
Eh bah oui.
Eh oui.
Vas-y, vas-y, je le laisse.
Bah c'est pas les Panama Papers, mais en tout cas, on les salue. Un petit coucou des supporters du PSG au Panama. On est tous derrière mercredi. Pour nous, ce sera l'après-midi. C'est beau. Franchement, Tribune PSG, on nous écoute même au Panama. On pourrait faire une émission là-bas, ce serait pas mal.
Arrête, allez, à chaque fois, on reste là.
On revient sur PSG Liverpool. Retournons au combat, les amis. Et on reparlera, bien sûr, de Paris dans les veines. Puis tu reviendras quand tu veux aussi pour débattre avec nous sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Mais vous n'hésitez pas à partager l'émission. Et on vous fera un tirage au sort vendredi pour gagner le livre. Juste une petite chose. J'aimerais quand même faire un tout petit témoignage à 18h29 dans cette émission. Ce pull très moche.
Mais qui est quand même très beau.
Très beau, non, mais très chaud.
Ne dis pas très moche, il est beau.
Mais non, mais ça s'appelle les pulls moches.
Ah bon,
tu sais que ça se fête le 15 décembre aux États-Unis et le 16 décembre en Europe. Donc c'est pour ça que
voilà. Tu vas le garder jusqu'au 16 décembre.
Je vais pas le garder, mais il fait très chaud.
Il
fait,
il est super chaud.
Non, mais il est super chaud.
Ouais, on
sort. Ouais, merci, merci. Et je voulais juste te dire que dans Paris dans les veines, tu sais ce que j'ai préféré? Alors le livre, je l'ai aimé vraiment. Mais alors par contre, la mention spéciale en toute fin. Ça veut dire que ce garçon est un vrai supporter du Paris Saint-Germain. Je peux me permettre de donner
donc,
juste
la fin, là.
Les remerciements. Et surtout, le tout dernier remerciement, c'est mon préféré. Merci à Amara Diané.
Et voilà, ça c'est beau.
Je crois que voilà, il va y avoir une tribune à Amara Diané, parce que sinon on serait à Vannes, hein, au stade de la Rabine, en train de faire des matchs.
On serait peut-être remonté depuis.
On existera peut-être plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai aimé cette dédicace à Saint Amara Diané, que l'on salue. Les amis, on revient sur Liverpool, bien sûr, sur cette rencontre, match crucial à plusieurs titres. Je rebondais un petit peu sur l'article du Parisien aujourd'hui, qui joue très gros finalement. Le balayage.
Aujourd'hui, bravo les gars.
On va faire un peu
tous les... Ce sera chacun après, au
effectivement,
cas où ça tombe
si ça se passe mal. Parce qu'on le rappelle, si le Paris Saint-Germain se foire complètement et perd face à Liverpool dès mercredi, adieu la Ligue des Champions. Ça sera pas simple pour la Ligue Europa, parce qu'il faudra aller chercher des points du côté de Belgrade et ça va être chaud. Et ça pourrait faire des secousses quand même à tous les niveaux. Et on va commencer par le premier, celui qui est en première ligne, pour Thomas Tuchel, parce que pour le moment, tout est beau, tout est magnifique, communication parfaite, coaching plutôt bon, tout se passe bien. Est-ce que ça pourrait faire trembler l'édifice?
Moi,
c'est
pas
la tête, les enfants.
Moi, j'ai pas la tête. Parce qu'il a une cote actuellement qui fait que... ça fera pas trembler, on dira juste on reviendra l'année prochaine et on fera mieux avec lui, toujours. Non, je le vois pas du tout...
Il a rien à craindre. Pourrait traîner ça comme Emery a traîné la remontada pour être viré la saison suivante.
Oh non, ça dépend du score.
Il
y a eu une cassure à partir de ce moment-là. On partirait sur le fait que dès le début de saison, il a dit que c'était pas l'objectif, la Ligue des Champions, qu'il a pas aussi l'effectif nécessaire pour pouvoir combattre les équipes sur lesquelles il est tombé. On n'a pas de sentinelle toujours.
Je pense qu'à Doha, ils sont pas prêts à entendre ça quand même.
Non, mais la question quand c'est est-ce qu'il serait viré en cas de non-qualification?
Moi, je pense pas. Il serait pas viré, mais ça ferait quand même tâche.
Mais ils ont une deuxième chance.
Ok, il manque un numéro 6 peut-être, mais enfin t'as quand même une équipe qui est compétitive. Il y a des bons partout. Hein.
Ce qui est génial, c'est que dans ton livre, dès le 1er juillet 2017, on parle de la sentinelle, savoir si le PSG a une sentinelle. Et en fait, là, tu te présentes face à Liverpool.
On n'avait pas vu venir le départ de Mota. On ne savait pas qu'il allait s'arrêter.
Tuchel n'a rien à voir là-dedans.
Si, moi, j'ai eu des doutes sur Tuchel. Ok. Techniquement, tactiquement, c'est bien et tout. Les doutes sur Tuchel, c'est à partir du moment où tu joues la Ligue des Champions et que tes joueurs, ils sont pas dans le match, ils ont pas cette envie et cette énergie, c'est qu'il y a un problème de motivation et c'est aussi le boulot du coach. Et mais là, je dis, c'est pas normal. S'il n'est pas capable de les bouger, c'est ce qu'on a reproché à Emery. Si c'est le même cas avec Tuchel, je suis désolé, c'est qu'il y a un moment.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème finalement? Est-ce que c'est pas le confort parisien, Damien? Je me retourne vers toi, mais le confort parisien.
Parce que c'est pas
la culture club. Voilà, parce que Emery a pas réussi à les secouer. Blanc a pas réussi à les secouer.
Évidemment.
À un moment donné, si tu fais le même constat avec un entraîneur avant, un autre derrière et déjà avant,
il faut peut-être se poser
des questions aussi de savoir si les joueurs sont capables d'arriver à ce niveau qui va te faire passer des étapes.
Hein. 100% non, d'accord avec
les joueurs. Les joueurs sont là.
Non, je crois pas.
50 émissions où on a parlé du mental de ces joueurs.
Exactement.
Et 50 fois, j'ai
sur
dit,
les gros matchs.
Le Paris Saint-Germain a des joueurs d'un top niveau. Mais malheureusement, pour l'instant, dans tout ce qui est match important, ils l'ont pas.
Ah non,
c'est faux.
Mais non,
il y a
regarde l'histoire. À chaque fois, je te disais, Neymar, moi je me rappelle de, justement, on le disait pas, mais la remontada, celui qui est au cœur de ça, c'est Neymar.
D'accord, dans quel club et dans quelles conditions?
Et monsieur,
on parle de joueurs, on parle pas de conditions et de clubs.
Bien sûr, le club est différent.
Le soir de la remontada, il n'y a que Neymar sur le terrain. Il y a trois joueurs. Il y a Neymar, Suarez, qui est filou, et l'arbitre.
D'accord. Voilà. N'empêche que t'as Suarez qui marque, il y a des autres acteurs, et t'as surtout un arbitre.
Non.
Sur ce soir-là, tu peux mettre n'importe qui. Je suis désolé quand même.
On a les joueurs,
la circonstance sur ce match-là qui est quand même assez délicat. On peut se poser des questions par rapport à
ce match a eu lieu il y a
bien sûr.
On a les joueurs.
Ça c'est sûr, c'est un boulet. Ça c'est un boulet.
Alors tu sais que le débat qu'on a là, c'est le papier qu'on fait dans le Parisien demain. Seras-tu là? C'est-à-dire il faut y aller avec des guerriers. Oui, c'est pas le premier.
On l'a déjà entendu.
Ils l'ont déjà entendu.
C'est pour ça que tu attends la réponse sur le terrain maintenant. C'est fini de les discours.
Donc soit ils y vont, soit le problème est ailleurs. Alors soit le problème c'est effectivement qu'on n'a pas les joueurs pour.
On a les
joueurs. Soit la question qu'on se pose aussi c'est est-ce que ça vient pas de la culture club? Est-ce que on n'est pas dans un club où ils sont tous un peu trop confortablement installés?
Ça doit jouer à un niveau.
Parce que tu te poses la question quand tu joues contre Liverpool et Naples. Parce que les mecs à Naples, une fois qu'ils ont fini le match, ils se retrouvent dans la rue. Et dans la rue, ils ont tous les supporters autour d'eux. Et là, tu es obligé d'y aller. Quoi.
Et tu peux élargir. Pas dans un les mecs du PSG ne réussissent pas en équipe de France.
Damien.
Non, mais c'est
il veut réagir.
Mais si.
Les mecs formés au PSG.
On écoute Damien qui est avec nous.
Mbappé n'a pas été formé au PSG. Non, mais.
Comment dire. Après, c'est vrai que, selon moi, pour Tourelle, en fait, c'est assez. C'est assez cruel pour lui parce qu'en fait le match couperet arrive à un moment où il n'a pas encore pu tester des choses dans un effectif qui est quand même assez bancal et du coup son 3-5-2 ou le 3-4-3 qu'il veut mettre en place en plus il y a le problème Rabiot qui se surrajoute à ça.
Il a fait quelques essais.
Ben oui, mais il a fait quelques essais, mais finalement le problème Rabiot en fait a retardé encore plus la possibilité en fait de trouver l'équilibre général de l'effectif. Après, il y a encore une fois le problème mental Moi, je suis d'accord sur le fait que je sais pas si c'est la culture club ou si ça vient des joueurs et qui.
C'est la culture club.
Mais après, si t'arrives pas à te motiver, tu vois, contre Liverpool.
C'est la culture club. Vous savez pourquoi? On a parlé du championnat. Excusez-moi. On a parlé du championnat. Il y a des équipes qui ont réussi à se qualifier, à aller loin en Ligue des Champions. Je pense à Monaco, par exemple. Mais au PSG, il y a ce problème de mentalité où, effectivement, soit ils sont dans un confort, ou soit, en fait, ils abordent pas les matchs de championnat avec le sérieux qu'ils devraient pour pouvoir ensuite réitérer les efforts nécessaires en Ligue des Champions. Et le pire constat qu'on peut faire, c'est à chaque fois qu'il y a un joueur d'une équipe adverse qui parle du PSG, le constat, il est toujours le même. L'équipe peut gagner la Ligue des Champions, mais ce qui fait la différence entre le PSG ou Liverpool, c'est que dans les autres équipes, il y a un collectif, pas au PSG. Voilà.
Exactement. Ça réagit, Émilie, sur les réseaux sociaux, ouais, et on va revenir vers toi, Eric. Oui, c'est justement mon capitaine. Mais alors, je vous explique. Si vous voyez, pour ceux qui écoutent l'émission en podcast, ceux qui voient peut-être l'émission, pendant que Damien était en train de parler, j'en avais quand même 1, 2, 3 qui étaient en train de lever les mains. J'avais Émilie qui était en train de taper sur les mains.
Je suis désolé, Émilie.
Rico, etc. David a se dire, je suis chez les fous. Ouais,
on lève la main, mais c'est chiant.
Mais c'est bien.
Ça
fait 2-0. Après, Damien, voilà. c'est pour toi, la boîte à sous. Oui.
Avant les commentaires, moi, je veux juste vous rappeler qu'en début de saison, à l'arrivée de Tourelle, on a dit... On n'ira pas. La Ligue des Champions, c'est pas pour cette année. Laissons-le travailler. On verra ça l'année prochaine. Et en fait, comme à chaque fois, on se reprend au jeu. Et là, on a... Alors évidemment, moi aussi, j'ai envie de dépasser novembre, là, parce que c'est trop laid. Mais rappelez-vous du discours qu'on avait au début plutôt
mais
bienveillant.
Mais parce que ça l'arrangeait bien.
Mais il a pas pu composer avec l'équipe.
Toi, tu nous as dit, je veux juste une perf.
Ouais, exact.
Cette saison, tu voulais juste une perf.
Une perf, éliminer un club plus fort, censé être plus fort que nous, un gros d'Europe. Mais malheureusement,
on n'a pas dit à quel moment.
Il faut y arriver. Là, le problème, c'est que je l'avais pas vu venir si vite. Il n'y avait pas encore eu le tirage au sort. Et je pensais pas qu'on se poserait la question avant la fin des poules.
Sur les réseaux sociaux.
Alors, sur les réseaux, ça réagit. Il y a Régis qui nous dit, c'est plutôt Nasser qui joue gros. Tinique nous dit, le problème, ce n'est pas Tourelle. Tchèque nous dit, match crucial, bien sûr. Tourelle sera maintenu, je pense, mais il faudra revoir le profil des joueurs dans le recrutement. Tony rajoute, le problème du PSG, il est tout simplement psychologique. À partir du moment où il y a un enjeu de taille, le PSG se foire, reste à voir mercredi. Et Claude nous répond, ce sont des touristes.
Et Dric nous dit, s'il y a un problème de motivation, on peut mettre 11 gilets jaunes sur le terrain. Oui, Eric Ravet, son Atalanta.
On a parlé de tactique. Et moi, je pense que le 3-5-2 est la meilleure pour le PSG par rapport aux joueurs qu'on a. Mais le plus important, et je vais pas faire mon entraîneur, mais le plus important, c'est l'animation. Et ton animation, à chaque fois qu'on a joué des grosses équipes, ou alors il y a bien sûr l'état d'esprit, mais ton animation, c'est ce qui est plus important. Et dans l'animation, on a jamais répondu présent pour les gros matchs. Pour les très gros matchs. Le seul que t'as réussi, c'est Barcelone, à domicile, le 4-0. Sinon, le reste, c'était des matchs difficiles à chaque fois où tu fais pas la différence, où tu fais pas, avec l'équipe que tu avais, ou tu as, maintenant, tu dois être capable d'exploser Liverpool, même 3-0, je te dis franchement. Si tu fais un vrai match, tu dois les exploser 3-0. Parce qu'en plus, Liverpool, je rappelle que Liverpool a perdu à Naples, a perdu à Belgrade. Donc, Liverpool hors de ses bases, c'est pas le Liverpool à Liverpool. Et donc, ils doivent gagner 3-0 demain.
Les 45 premières minutes de Belgrade, de l'Étoile Rouge, pour avoir vu le match un peu en accéléré, mais pour les avoir quand même vus, les 45 premières minutes, ils sont pieds au plancher. Ils ont envie de casser la tête des Reds. Il faut faire la même chose. Quoi.
Bien sûr.
T'as pas le choix.
C'était mieux à Naples, hein. Attention.
Oui,
à Naples,
on
c'était
est
mieux.
D'accord. Dès que tu commences à chauffer, ça prend le bouillon. Quand même.
Tout à l'heure, Émilie, t'as lu un commentaire dans l'internaute qui disait que l'équipe chie dessus, c'est ça?
Moi,
je suis pas d'accord avec ça. Je pense pas que l'équipe se chie dessus. Et je vais citer Eden Hazard qui était au Canal Football Club hier. On lui a posé la question sur le PSG. Qu'est-ce qui manquait au PSG? Je suis d'accord avec lui. En fait, le PSG, ils ont pas l'habitude d'avoir des équipes en face qui ont du répondant et qui vont pouvoir leur rentrer dedans pendant tout un match. Il y a des équipes qui arrivent à faire un bloc, qui arrivent à leur faire un pressing important.
En Ligue 1, tu parles du coup.
En Ligue 1, mais dure 15-20 minutes. Et généralement, les équipes, elles craquent. Généralement,
c'est Lyon.
Le PSG, à la 60e minute, c'est là que ça commence à dérouler parce que les équipes, elles sont complètement lessivées. Là, en Ligue des Champions, ils sont face à des équipes qui sont comme eux, qui ont le même budget, voire plus, qui ont des joueurs qui sont là au même niveau d'adversité. Et c'est là que, justement, le PSG manque dans le dernier geste, dans la précision, dans les passes. Et je suis peut-être chiant avec ça, mais c'est parce que en Ligue 1, ils n'arrivent pas à mettre cette intensité, à jouer avec ce degré de sérieux qu'ils devraient pour pouvoir ensuite répéter les efforts.
En tout cas, au vu de ce qui s'est passé face à Toulouse, effectivement, il n'y avait pas grand-chose comme intensité. Ça manquait un petit peu d'électricité. Ok pour Tourelle, est-ce que le groupe peut... Tant pis, je suis en train de sortir les scénarios catastrophes. Hein. Est-ce que le groupe peut exploser? Un Neymar, il n'est pas venu jouer l'Europa League. Il n'est pas venu se regarder la Ligue des Champions à partir des huitièmes à la télé. Ce qui n'est jamais arrivé. Oui, Laurent.
C'est vrai qu'il lève pas les mains. Ah, normalement. Pas la main,
non, mais vous m'avez pas expliqué.
Il est chef.
Venu depuis un mois.
Il est chef.
Merci. Quelle est la question, bonhomme?
Le groupe.
Non, je pense pas que le groupe explose. Après, la fin de saison va être très très longue. Sauf s'il joue la Ligue Europa.
Ben là, t'as pas le choix, tu dois la gagner.
Oui, t'as pas le choix, mais au moins, t'as un objectif.
Vous avez vu les équipes en Ligue Europa.
Je crois qu'ils vont nous aider.
Je ne regarde pas la Ligue Europa.
C'est des orages.
C'est pas la saison, il y a
Marseille.
C'est
du foot, ça.
C'est des Ligue Europa, ça arrive de partout. Dans des Russie, c'est des pleurages tous. Mais ce sera bien plus difficile pour le PSG.
Mais bien sûr,
c'est pas comme
ils vont se faire chicoter.
Excusez-moi, les Marseillais sont allés en finale.
C'était pas le même parcours.
Par Salzbourg et des clubs de super.
Alors, on va se faire casser des tibias là-bas.
On a vu la finale. Hein. Dès que ça s'est un peu élevé, c'était l'Atlético.
Oui. Mbappé va avoir mal à l'épaule.
Là, tu parles de gagner la Ligue Europa.
Ah bah, moi, c'est sûr. C'est... Ah, oui. Ah, si tu bascules en Europa League,
on a tellement changé les Marseillais que là, t'es obligé de la gagner.
On parle de motivation en Ligue 1, ils n'arrivent pas à se mettre dedans. Mais qu'est-ce que ça sera en Ligue Europa? La motivation des joueurs, enfin, c'est impossible. C'est inenvisageable.
Tu crois? Moi, je pense qu'ils peuvent se motiver.
Non, mais attendez, là.
Mais en Europa League.
Mais vous oubliez quand même que c'est là qu'ils ont
rien à jouer. Il
faudra peut-être y penser quand même.
Oui, c'est
ça.
C'est le club français qui aligne une deuxième Coupe d'Europe sur la table.
Tu peux pas avec cette équipe.
On a parcouté Neymar et Mbappé pour aller en Europa League.
Un jour, Paris joue la Ligue Europa après avoir gagné la Ligue des Champions parce qu'il y aura une année.
Oui, voilà. Tu ne sais pas comme ça. Si la Ligue Europa se présente, tu vas la jouer.
Tu peux pas présenter à Neymar, Cavani.
Coucou.
Mbappé, Neymar, Thiago Silva,
non mais attends, l'Atlético vient de la gagner, Manchester United l'a gagné, je pense que les gars ils sont très contents de l'avoir gagné cette Ligue Europa.
Eh ben, je suis d'accord avec Lolo.
C'est pas des petits clubs. Parce que c'est des équipes qui ont déjà un palmarès européen. Donc une année pour Manchester United c'était bien. Pour
des clubs comme ça, tu pourrais dire la Ligue Europa.
Vous avez envie, vous
connaissez. Ils l'ont gagné.
Damien, moi c'est personnel, si on peut dire à jamais les premiers à avoir gagné deux Coupes d'Europe. Puisque c'est ça qu'on
pourra. Puisque
depuis l'an dernier, apparemment, l'Europa League, c'est la Coupe d'Europe.
Tout court.
C'est la Coupe d'Europe. Du coup, allons-y.
À la disquette, j'aime bien.
Je vais me faire défoncer.
J'aime bien cet esprit.
Non, mais il n'y a pas de souci. Attends, tu sais quoi? Avec mon pédalage, je te rejoins. Non, mais sérieusement.
Bien sûr.
En plus, t'as l'argument de vente parfait. L'année dernière, on nous a saoulés en nous disant Marseille est en finale.
De la Coupe d'Europe.
Mais qui nous a saoulés?
Mais c'est ça,
Tout le monde a plongé, moi j'étais à mort pour l'Atlético.
Comment vous pouvez être aussi exigeant pour que Paris gagne la Ligue des Champions et qu'ensuite vous contentiez de la Ligue Europa?
Et surtout quand on dit c'est pareil,
je peux dire juste des la cohérence, c'est que si tu te plantes sur la Ligue des Champions, ok garçon, tu t'es planté. C'est comme avec un enfant, comme avec quelqu'un. Tu t'es planté sur ce coup-là.
Mais tu vas pas en Europa League avec Neymar
Bruno,
et Mbappé.
Bruno, je peux te donner juste un stade. En fait, on va faire un résumé. On va faire les trois dernières années. On s'est mangé une remontada. On s'est fait complètement maîtriser par le quadruple champion d'Europe. Et ensuite, Europa League. Enfin, et chaque année, je pense encore plus.
Je te donne des stats aussi. Je te donne des stats d'une grande équipe européenne, là, Manchester City depuis la défaite contre l'OL. C'est 12 victoires, 1 nul. 42 buts marqués, 3 buts encaissés en première ligue. Donc avec des adversaires qui sont machin. Donc
non,
je veux dire c'est
pas représentatif.
Non mais si, mais t'as quand même une réaction de d'équipe qui
non parce
qui,
qu'en Angleterre
ils se mettent chiffon sur le terrain avec des blessés comme De Bruyne qui est plus là comme
ils ont perdu face à Lyon.
Ouais, mais n'empêche que depuis, la réaction d'une grande équipe, c'est ça.
Non, en Europe City, c'est pas une grande équipe.
Désolé.
En Europe, c'est vraiment pas une grande équipe.
C'est une finale de la Ligue Europa entre le PSG et Manchester City.
Non, mais vous perdez la tête, attendez, juste
3 secondes. J'ai jamais dit que je voulais aller en Ligue Europa. Je
ne sais pas.
Je suis comme Damien, je dis une chose.
Non, mais si on est reversé.
Si tu t'es reversé et que tu te plantes, mon gars.
Pourvu que les joueurs se disent pas ça ce matin ou demain matin.
Mais non.
Avant l'hiver.
J'espère qu'ils en d'accord.
Pas, hein. Mais au pire, on ira en Ligue Europa.
Mais non,
Laurent
Perrin.
Non, mais je comprends pas le débat.
Tu veux que je te dise qu'il n'y en a pas de débat.
Non, mais attends. C'est perdu. Ils se font éliminer de la Ligue des Champions, ils sont reversés en Ligue Europa. Le débat, c'est de se demander s'ils vont la jouer à fond ou pas.
Mais
vont...
oui.
C'est ça le débat. Donc, les mecs, ils vont dire, on va pas la jouer à fond parce qu'on va assurer le championnat.
C'est pas ça le débat. Le débat, c'est que t'as deux des meilleurs attaquants du monde. T'en as deux dans ton équipe et t'es pas capable de te qualifier.
Oui, mais ça, c'est un autre truc. Après, il va faire une petite remise en question.
C'est ce que vous dites.
Une fois que t'es fait, tu l'as fait. Oui, bah oui, non, mais une fois que c'est fait, bien sûr que c'est fait.
Une fois que t'es pas dedans, si t'es dedans, si tu es en Ligue Europa, tu vas jouer.
Des bisous, les gens.
Alors, arrêtez de leur mettre la pression pour Liverpool, alors, dans ce cas-là. N'écrivons rien sur eux et souhaitons.
Troisième. Moi, j'aimerais qu'ils aient un peu plus de pression. Ils n'ont pas la pression, c'est ça. Et puis, une coupe de la Ligue, ça aurait de la gueule aussi.
Ouais,
hein,
voilà.
Une
nouvelle. Oui. Ah, bah, on a gagné le trophée des champions, c'est bien, c'est pas mal.
Ça, c'est déjà
une 15e victoire en championnat.
Non, mais en plus,
on écoute Émilie.
J'ai envie de raconter
plus tard. J'ai envie d'avoir la gagne.
Il a mis le feu et maintenant, il s'appelait comment le départ.
C'est toi, Bruno, t'as choisi ton camp, Bruno.
T'étais Miss Californie, toi, il y a 15 jours.
C'est chaud.
Vas-y, 3 minutes, 2 minutes maintenant.
Allez.
Plusieurs réactions sur les réseaux. Il y a Shaq qui nous dit, pardon, il faudra diminuer les égos et acheter des mecs qui sont capables de se mettre minables pour nous.
Ça, c'est sûr.
Mais c'est pas possible.
Et il y a Stéphane qui nous dit, Stéphane Pereira qu'on embrasse, on veut des lignes dans le sur le palmarès, la Ligue Europa, je prends. Alors moi, la Ligue Europa, je veux pas forcément. Par contre, là où je suis quand même bien contente, qu'on affiche de plus en plus de lignes, c'est-à-dire Coupe de la Ligue, Coupe de France, si vous voulez. Moi, je veux qu'on gagne tout, parce que, enfin, tout. Il faut respecter les niveaux. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas.
Le plus de.
Mais je suis d'accord.
Mais je veux pas aller en Ligue Europa.
Mais je peux pas y aller non plus. C'est pas mon but. Moi, ce que je veux, c'est la Ligue des Champions. Mais si jamais t'es dans le bazar parce que t'as une bande de trompettes qui sont pas allés au boulot et qui ont pas fait le taf en tous les cas, ils n'auront pas fait le taf.
Ah oui, ça, voilà.
Et s'ils l'ont pas fait, eh ben les gars, allez, maintenant tu vas aller effectivement t'en mancher au Baté Borisov et tu vas aller te faire casser les genoux du côté du Shakhtar Donetsk.
Tu sais que les équipes en Europa League, c'est du même niveau que Naples.
J'en suis conscient.
Ça va être que des équipes.
Mais bien sûr, c'est pour ça que je dis que c'est pas un parcours facile.
Il fait moins 5, moins 6. Les mecs, des fois, ils disent qu'ils ont
froid. Tu sais, c'est moi qui parie parce que vous, c'est
en trop. Tu parles.
Ouais, voilà. Des fois,
c'est quand même un beau trophée.
Ouais, moi, je trouve que ça commence à prendre.
Évidemment, s'il fallait signer pour une nouvelle Coupe d'Europe pour le PSG.
Mais
j'ai dit non, surtout pas, parce que d'abord il y a Liverpool, faut gagner Liverpool, faut se qualifier, faut enfin avoir des résultats en adéquation avec l'équipe qu'on a toutes les semaines.
Puis souvenez-vous, la Coupe des Coupes, c'est peut-être pas non plus le truc. Le PSG est bien content de l'avoir.
On est content de l'avoir.
Mais c'est surtout qu'il attend. Il n'y a pas de match à l'extérieur. Liverpool perd tous ses matchs à l'extérieur. Pourquoi le PSG ne battrait pas Liverpool?
Bien sûr, c'est pour ça que je te dis, il doit gagner même 3-0.
Voilà. 3-0, tu dis?
Moi, je pense qu'il peut gagner 3-0.
Demain,
il peut.
Mercredi.
Arrête de dire demain.
Pas de score, mais victoire du Paris Saint-Germain.
Pas de score. J'ai mal au bide, moi.
Damien.
Je suis trop superstitieux pour donner un score, mais victoire de Paris.
D'accord, victoire de Paris.
Et pour une fois, je donne jamais de score, là je vous donne 3-0, les gars.
Ah bah on t'a entendu.
Bah oui, on y croit.
Bon, c'est terminé pour Tribune PSG. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Damien Dol Chabourine, merci beaucoup d'être venu. Bon, c'est, tout le monde était un peu dissipé. Voilà, on a parlé du
c'est
match.
C'est la marque de cette émission.
C'est la marque de cette émission, effectivement. Paris, dans les veines, à retrouver dans toutes les bonnes librairies, aux éditions Marabout. Et si vous partagez cette émission pendant que... Ça va, je suis sur le selfie ou pas là? Non, c'est okay. Juste pour remercier de ta venue. Puis tu reviens quand tu veux, si le cœur t'en dit. La porte est grande ouverte. Vous partagez l'émission et on fera le tirage au sort pour remporter Paris dans les veines aux éditions Marabout de la part de Damien. À la prochaine, Damien.
À la prochaine. Merci pour l'invitation.
Salut Damien. Bonjour, à la prochaine aussi.
À la prochaine, en espérant qu'on soit heureux de...
Mercredi soir.
Ouais, bah ouais, qu'on passe une bonne soirée, je l'espère.
20h, ouais. Minuit, sur l'antenne de France Bleu Paris, avec justement Joss, avec Eric Rabé-Santana, Émilie, Ross, Tonton Steph, oui.
Et Big Up aux féminines, on a oublié de parler de Gatoto et de ce qu'elle a fait et tout ça, chapeau.
Ouais, elles ont gagné demain, mais c'est un peu ric-rac à Rodez.
Mais c'est passé.
Et demain, dans le Parisien, déjà double page, peut-être, on fait monter la température.
Oui, je l'ai dit tout à l'heure.
Si, je suis. Ah, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez contre moi aujourd'hui,
Atula?
Est-ce que l'esprit sera là?
L'esprit sera là, bien sûr. Non, mais il peut peut-être y avoir d'autres choses aussi.
Oui, il y a une interview de Otmar Hitzfeld qui juge le combat tactique entre Tourelle et Klopp.
Très bien, bah voilà. Et là, on se lance avec Otmar
Hitzfeld.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Merci pour tous les cœurs qui sont en train de dégringoler. Et c'est qui au sifflet, me demande Laurent.
Je crois que c'est l'arbitre polonais. C'est un polonais. Celui du 4-0.
C'est le polonais, ouais.
De 4-0 contre le Barça.
Tout à fait. Voilà. Voilà, réponse de Damien. Merci, ciao, bye bye. Il faut qu'on éteigne maintenant. Ciao, salut.